n'a pas envie, la vérité, d'aller au panier, parce que 3 points, c'est mieux que 2.
Shorts shakes down Garuba. He broke his ankle. Are you kidding me?
Campazzo pour la dernière chance du Real. C'est fini, c'est fini. Paris est en playoff. Quel exploit monumental. Paris jouera Fenerbahce.
Il est gourmand, il est gourmand.
Du Mike James dans le deck pour ramener voilà.
Mike James, balle en main, switch, Robertson, du défenseur en face, Mike James, un peu d'espace, oh c'est fort, Mike James avec Jack,
quelle action, superbe. Ah c'est le basket qu'on aime.
Mais oui, les playoffs de l'Euroleague, on va dire un mot, puisque pour la première fois depuis la création de l'Euroleague, nous avons deux clubs français en quart de finale. Ça commence ce mardi avec le Paris Basketball qui se déplace sur le parquet du Fener, que Paris a beaucoup joué sur la deuxième partie de saison. Et le Pana qui va recevoir l'Anadolu dans l'autre quart de finale de ce jour. Monaco, mercredi, recevra le FC Barcelone, tandis que le leader de la saison régulière, l'Olympiakos, recevra le Real Madrid. Le Paris Basketball, évidemment, ils ont envie de le faire. Est-ce qu'ils peuvent le faire, Stephen, d'aller gagner en 5 une série face au Fener?
Déjà, sur cette série, on sait qui a la pression. C'est pas Paris. Hein. C'est le Fener qui va absolument retourner au Final Four et qui a terminé deuxième de la saison régulière et qui va avoir l'avantage du terrain. Paris, toujours outsider, comme il a toujours été, mais outsider, on les a vus gagner au Real Madrid, le grand Real Madrid. Là, tout à l'heure, on parlait de Steph Curry, Jimmy Butler, tu les prends plein fer. Et ben là, tu arrives dans la salle du Real, tu prends Sergio Llull, tu prends Ezonia.
Et
ils l'ont fait. Cette équipe, elle a peur de rien. C'est sa grande force. Elle est sûre de ses forces. Elle est emmenée par un mec qui n'est pas passé au travers depuis 6 mois, qui s'appelle TJ Shorts. Il y a 2 défaites contre Fener cette saison, mais c'est 2 défaites ric-rac. Hein, on rappelle ce tir au buzzer de Nigel Hayes-Davis à Istanbul. Il y a un truc qui me fait peur, c'est le secteur intérieur, mais le problème, c'est qu'il me fait peur depuis le mois de septembre. En fait. Et ils sont quand même là en quart de finale. Ils ont perdu à l'Adidas Arena contre le Fener. Ils ont pris 20 rebonds offensifs, le Fener. Mais mine de rien, ça joue à 2 possessions. Tiberius Hayes a beaucoup de boulot, même si au Fener le secteur intérieur c'est pas All-Star Game non plus, hein, c'est des joueurs c'est surtout le secteur extérieur, mais c'est une série qui est intrigante parce que je pense que cette équipe de Paris Basketball fait peur à tout le monde parce qu'elle est imprévisible, parce qu'elle a des mecs qui, comme Nadir Rifi, comme TJ Short, comme Tyson Ward, qui mettent des rafales en 3 minutes. Et c'est une équipe qui est très compliquée à scouter, très compliquée à jouer. Donc, ils ne partent pas favoris. Mais moi, je ne serais pas surpris de voir Paris gagner un match à Istanbul.
Et on pensait que ça tirerait la langue sur la fin de la saison.
C'est Nicolas qui tire la langue.
Oui, exactement, bien joué. Félix, Fred, ils sont là, les Parisiens répondent présent. Aller gagner quand même au Real, non, ce
ça,
play-in.
Ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné, évidemment.
Déjà, ils avaient joué en saison régulière, juste avant le play-in, ils n'étaient pas loin de gagner là-bas.
Hein. Je suis d'accord, sauf que là, c'est un match couperé. Tu vas jouer là-bas où le Real a une pression folle. Et pour eux, c'est hyper important.
T'es devant tout le match.
Et t'es devant, tu les domines. Donc moi, je trouve ça très impressionnant. Après, je trouve qu'un match sec et une série, ça n'a rien à voir. Et c'est là que je me dis que ça va être très compliqué pour Paris. Le Fener, c'est quand même bien coaché. Le Fener, c'est quand même ça a de l'expérience, ça a la pression, c'est vrai. Mais si je devais mettre une pièce, je mettrais une pièce sur le Fener. Je dirais allez 3-1.
Ah, moi, j'ai envie de. Tu parles des coachs, évidemment. Yasuke Vicious face à Thiago Splitter et le calme.
Yasuke Vicious.
Yasuke Vicious.
Yassas.
Saras. Vous acceptez Saras? Oui, bah, j'ai pas fait. Lituanien en première langue. Le calme,
c'est deux
souvent.
C'est deux salles de ambiance, hein, Jessica Vicious, mais Thiago Splitter.
C'est ce que j'allais dire, Félix, c'est le calme olympien Brésil de Thiago Splitter face au volcan Saras qui explose.
Coach de l'année. J'aime beaucoup cette phrase quand même. Hein, le volcan Saras.
Voilà. Et ça, comme tu dis, cette mentalité, ce tempérament, ça infuse sur son équipe et surtout une équipe qui croit en ses forces et qui sait qu'elle peut tout réaliser. Et ça qui est impressionnant. Donc à ta question, est-ce qu'on croit en exploit du Paris Basketball? Oui, parce qu'en fait, toute la saison, ils nous ont prouvé qu'ils repoussaient les limites et à chaque fois, on se disait « Ah, peut-être que là, on est arrivé au plafond du Paris Basketball, ils vont peut-être arrêter de nous surprendre. » Ben, ils nous surprennent tout le temps. Donc pour le coup, on est obligé de croire en eux. Après, petit bémol, pour le coup, ouais, sur une série, moi, ça me fait un petit peu peur parce que je pense que la grande force du Paris Basketball, c'est le côté, on le sait, le chaos très organisé, le côté très imprévisible. Et je pense qu'en fait, que sur un Final Four, ils sont encore plus redoutables que sur une série comme ça. En fait, si vraiment ils passent cette étape...
Par contre, là, oui, je plains tout le monde. Parce que là, ça peut être très dangereux.
Sur un match,
Ah bah celui qui va récupérer le Paris Basketball en demi.
Mais sur une série,
c'est dur. Ouais, il faut de la constance, il faut de la régularité, c'est beaucoup plus dur pour le Paris Basketball.
Votre prono ?
Toujours 3-1.
Hein. 3-1. Oui, je vous l'ai déjà dit, pardon, excusez-moi.
3-2.
Allez, 3-2, pareil.
Allez. Monaco-Barcelone, ça c'est notre autre club français, habitué au Final Four en tout cas, c'était le cas il y a 2 ans désormais. Les Monégas face à Barcelone avec leur coach le Spanoulis. Stephen, pas cadeau, le Barça qui...
2-0 contre Monaco cette saison, mais c'était deux matchs où Daniel Teix n'était pas encore monégasque. Et je trouve que ça change la donne, tant il a été dominant.
Ils ont enfin imposé, un pivot quoi.
Et il s'est imposé dans cette équipe, enfin, il est énorme Daniel Teix. Cette équipe monégasque, moi, c'est...
On a encore un Mike James qui... C'est du courant...
Ouais, mais enfin, Mike James, mais l'équipe en elle-même. L'équipe qui est capable de prendre 100 points sur un match du jour au lendemain, quand elle est bien lunée, quand elle est mal lunée. C'est une équipe qui manque de régularité. Ça fait péter un câble à Spanoulis, en fait. C'est que... Pardon, on l'a vu à la Leaders Cup, perdre en finale contre Monaco parce qu'ils n'avaient pas envie de défendre. Contre Le Mans, pardon. Pas envie de défendre en disant on est meilleur qu'eux, on va mettre plus de points qu'eux. Et non, mec, à un moment donné, ça marche pas comme ça. Donc là, ils ont un 0-2 cette saison. Ils sont fait attraper par Brizuela qui a mis 27 à Barcelone. Barcelone a eu beaucoup de blessés, mais a récupéré tout le monde. Yann Vézeli de retour. C'est une match-up importante, Vézeli contre Daniel Teix.
Il y a un peu d'expérience, là.
Il y a beaucoup d'expérience. Kevin Poulter va avoir un rôle clé dans cette série-là parce que c'est un peu le go-to guy de Barcelone. Maintenant, Monaco, moi je les vois normalement supérieurs à Barcelone, dans la densité physique, dans le 1 contre 1, la création, Okobo, Mike James, Jordan Lloyd, Alpha Diallo, qui pour moi est capable de stopper Kevin Poulter défensivement. Ils ont tout en magasin, Monaco. Maintenant, il faut qu'ils soient bien lunés, qu'ils soient motivés, qu'ils aient envie de défendre. Parce que si tu pars sur un match d'attaque, mec, tu jettes la pièce en l'air, en fait. Tu ne peux pas gagner à tous les coups sur un match d'attaque. Parce qu'en face, il y a autant de talent offensif. Les mecs peuvent tous mettre des paniers, en fait. Là, la problématique de Monaco et Spanoulis, parfois, il doit savoir. Il n'a plus de cheveux, je dirais. Il s'arrache les cheveux, mais il doit péter les câbles, en fait, Spanoulis.
Le fossé entre la qualité de leur effectif et leur inconstance, il est complètement dingue.
Et le rendu, des fois. Ouais.
Et Spanoulis, il avait parfaitement illustré ça. Il avait dit, je crois, il y a quelques semaines, après une défaite, il avait dit, j'en ai marre qu'en fait, qu'on soit à 10 sur 10, soit 1 sur 10 dans nos matchs. J'aimerais bien être juste des fois à 7 ou 8 sur 10. Et je trouve que ça illustre parfaitement. Et ouais, il pète un câble et c'est normal. En fait, elle est illisible.
Elle est à l'image de Mike James, en fait, quelque part. C'est ton leader et...
Après, attention, alors Mike James, on a l'impression qu'il fait une saison moins bonne que l'année dernière. Alors, il était MVP, donc forcément, depuis MVP, elle est un peu moins bonne.
Il n'était même pas dans les discussions.
Oui. Alors, chiffré, elle est moins bonne. Mais quand tu regardes sur les garçons qui créent le plus de points, que ce soit par les points ou par les passes décisives, il est troisième de l'Euroleague. Donc, je pense qu'il a changé son jeu. Spanoulis a aussi dû lui demander d'être un peu plus investi dans l'équipe et d'avoir plus de passes décisives
et de partager
la balle que d'être dans le scoring. Mais ce n'est pas pour autant que Mike James est moins dominant sur le jeu de Monaco. C'est pas parce que tu vois pas Mike James mettre 28 points qu'il passe au travers d'un match, en fait, Mike James. Parce que je pense que Spanoulis.
Il est passeur de l'Euroleague.
Je pense que Spanoulis lui demande autre chose, en fait, pour faire gagner cette équipe-là. Elle est là, l'influence de Spanoulis. Oui, bah, de défendre. Après, c'est pas, il est capable de le faire,
Mike James. Pour les autres, surtout. Mais moi, je suis moins. Je sais pas. J'ai l'impression que justement, que cette équipe, elle est tellement sur courant alternatif que là, c'est un match important, c'est une série importante. Et je pense qu'ils vont se transcender sur ce genre d'événement. Donc, moi, j'ai plutôt confiance en Monaco. Je crois qu'ils sont capables de le faire pour les explications Stephen. Parce que de la densité physique, parce que c'est dur, parce que c'est sérieux.
L'avantage
parce
du terrain.
Ils ont l'avantage du terrain.
Ouais, mais l'avantage du terrain, Monaco.
Ouais, mais oui, sauf que tu ne joues pas à Barça. Tu vas se le dire, tu ne vas pas à Barça. À Barcelone, tu as moins de matchs. Donc,
tu
as moins de pression sur toi quand même.
Et puis, quand tu joues Barcelone, si tu joues l'étoile rouge, le partisan, l'avantage du terrain, il est peanuts parce qu'il y a 3000 serbes
à Gaston Médecin.
Oui. Ça, c'est sûr. Mais moi, si je devais parier, je mettrais la Roca Team.
Roca Team en 5 ?
En 5, je pense. Ouais.
Oui, moi aussi, pour le coup, même, je pense que le talent et la capacité à se transcender dans les grands moments, comme tu dis, Fred, ça va faire la différence quand même.
Mike James, il vit pour ça.
Même toute l'équipe, il y a quand même du talent dans cette équipe.
On parlait de leader. Je pense que si ton leader vit pour ça et t'amène avec lui, les autres qui ont cette tendance aussi, ça va les aider.
Ça sera un échec de ne pas aller au Final Four.
Et attention à Joanne Bégarin qui peut faire la bascule.
Non, ils ont tellement d'options.
Un petit mot rapidement, parce qu'on a été très bavard. Pana Anadolu, pas photo.
Attention, Anadolu qui est l'équipe la plus chaude hein, sur la fin de saison. Hein. Ils sont
Michel
très bons.
Larkin.
Ils sont très bons. Vincent Poirier est très bon. Oui. Elijah Bryant. Ils ont du matos, hein, Anadolu, pour s'opposer au Pana. Ergin Ataman, après le dernier match où ils ont gagné après prolongation, il dit attends, mais si on joue comme ça, face à Anadolu, le Final Four, ça sera avec la télécommande sans notre canapé. Après le Pana. Le Pana, c'est un assemblage d'individualités, sauf qu'ils ont un roster XXL avec des joueurs de talent
MVP.
À tous les niveaux. C'est monstrueux, le Pana, Kendrick Nunn qui est exceptionnel. Mais attention à l'Anadolu. Pour moi, cette série, elle est pas, tu la mets pas de côté comme ça. Je vois bien l'Anadolu gratter un ou deux matchs.
Et Olympiakos, Real Madrid ? Ils sont pas contents, l'Olympiakos, quand même, de prendre le Real. C'est pas cadeau.
C'est pas le mieux pour eux. Mais Olympiakos, ils veulent être champion d'Europe, donc tu dois passer partout. Donc ils doivent gagner.
Le Real, c'est la jante. Hein. Jante, ils ont roulé un moment déjà dessus, sur la jante. Hein.
Oui, mais sur le papier, tu peux te dire, c'est pas forcément ce que tu souhaitais, mais effectivement, c'est pas le Real.
T'as fallu pousser un peu dans les retranchements, non ? Tu penses que.
Je suis pas sûr, moi. Moi, s'il y a un sweep à mettre sur une des quatre séries, je la vois là.
Après, ça peut faire 2-1, et t'as le match 4 à Madrid qui peut te pousser au match 7, et voilà, c'est peut-être plus ça. Pas forcément voir
le Real est pas souverain chez eux en fait.
Il faut
bien sûr que quand tu dis le Real Madrid, ils ont un énorme budget. Rien que tu dis ça, tu dis attention. Après, si on s'intéresse un peu à ce qu'ils ont produit toute la saison dans le jeu, avec ce qu'ils ont fait chez eux, c'est pas brillant hein, la saison du Real Madrid. Hein, donc,
c'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par le play-in. Hein.
Oui, c'est pas terrible.
Alors que d'habitude, tu faisais top 4.
Olympiakos, c'est une machine. Hein.
C'est une machine. Aucune discussion possible.
Et très hâte de voir Evan Fournier dans ce contexte de play-off. Ça va être sympa de voir notre petit Frenchie là-dedans.
Bien sûr.
Allez, place au quiz désormais pour conclure ce Basket Time épisode 230 consacré au play-off.